France Info.
Bonsoir à tous et bienvenue dans les informés de France Info, votre heure de débat à la radio, à la télé sur le canal 27 de la TNT, sur les réseaux sociaux et sur notre site franceinfo.fr. Au programme ce soir, dimanche soir, studio à l'Elysée. Emmanuel Macron reçoit une partie du gouvernement en ce moment, avant une allocution télévisée demain soir 20h. Après 5 mois de crise des Gilets jaunes, 3 mois de grands débats, quelles mesures, quel fond, quelle forme, beaucoup de questions. Nicolas Hulot lui a ses idées pour les réponses. Il signe une tribune avec 15 autres personnalités, dont le numéro 1 de la CFDT, Laurent Berger, dans le JDD pour réclamer un sursaut en matière de transition écologique et de justice fiscale. Au programme aussi, à la colère des urgentistes, ils réclament plus de moyens, plus de sécurité. Une grève illimitée est lancée dans plusieurs hôpitaux parisiens. Pour évoquer tous ces sujets, nos quatre informés sont là, dans le studio de France Info. Bonsoir Céline Boisson.
Bonsoir.
Directrice associée de l'agence de communication Nude. Bonsoir Pierre Jacquemin.
Bonsoir.
Vous êtes rédacteur en chef de la revue Regard. Bonsoir David Boëry.
Bonsoir.
Journaliste à France Télé. Bonsoir Jean-Christophe Loquin.
Bonsoir.
Rédacteur en chef à La Croix, notre partenaire du dimanche soir dans les informés. Messieurs, dames, bienvenue. Bienvenue à tous. Vous êtes sur France Info. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h. Le maître des horloges est donc attendu demain soir à 20h à la télévision. Après 5 mois de mobilisation des Gilets jaunes, 3 mois de grand débat national, Emmanuel Macron doit annoncer des mesures de sortie de crise. Il réunit en ce moment d'ailleurs une partie du gouvernement à l'Élysée. 3 grandes questions sur le fond, sur la forme et sur la cible. D'abord pour le fond. Demain, nous dit l'Élysée, le chef de l'État va annoncer des chantiers d'action prioritaires avancés. Les premières mesures concrètes, Jean-Christophe Ploquin, on a une idée de ce que va nous dire le président ?
Alors, on sait qu'il y aura des mesures qui seront immédiates, à effet très rapproché. Et puis, il va évidemment essayer de garder un cap sur le moyen terme. Je voulais revenir sur le thème de maître des horloges. J'ai pas le sentiment que ces derniers mois, Emmanuel Macron ait vraiment, vraiment contrôlé les horloges. Donc, c'est un moment où, effectivement, face à une contestation, et puis ensuite, avec le grand débat qui a essayé de canaliser, finalement, cette contestation, finalement, c'est effectivement un temps très fort du quinquennat où il va devoir se repositionner maintenant et reprendre la main proposer des solutions en termes de pouvoir d'achat, mais aussi en termes de démocratisation du pouvoir politique. Donc il y a énormément de demandes qui ont été exprimées à la fois par les Gilets jaunes, par les cahiers de doléances et par le grand débat. Et aujourd'hui, c'est un petit peu très compliqué pour lui de cibler les mesures qui feront évidemment, les propositions feront certainement beaucoup de déçus et quelques-uns qui seront satisfaits.
Pierre Jacquemin, pouvoir d'achat, priorité numéro 1, mesure à annoncer en priorité pour Emmanuel Macron ?
On aimerait qu'il ait entendu effectivement la demande qui s'exprime d'abord chez les Gilets jaunes, puisque le grand débat est né quand même de cette mobilisation, même si ça a concerné bien plus de citoyens français qui se sont mobilisés pour ces grands débats. Je suis pas sûr, compte tenu de la ligne, la trajectoire, même la structure intellectuelle presque politique d'Emmanuel Macron, qui ait une volonté véritable de changer de trajectoire. On sait très bien que la doctrine d'Emmanuel Macron, y compris celle de son premier ministre, qui quand même vient des rangs de la droite, personne n'aura échappé à personne, c'est quand même comment fait-on aujourd'hui dans ce monde pour réduire les dépenses, pour réduire les effectifs de la fonction publique, en gros, de fonctionner d'une manière technocratique et gestionnaire. Et donc, je ne suis pas sûr que demain, les annonces qui seront formulées seront de nature à rassurer ou en tout cas à convaincre une bonne partie des Français. Par ailleurs, quand même, je ne sais pas ce qu'il va annoncer très concrètement. Je me pose quand même la question de la légitimité des choix qui seront faits par Emmanuel Macron à partir du moment où tout ça repose sur un débat qui aura concerné, finalement, on l'a même vu ces derniers temps, on a parlé de 500 000 contributeurs, finalement ça serait plus que 250 000 contributeurs, selon les travaux d'ailleurs des journalistes de France Info qui ont dépouillé tous les documents. Ça pose quand même la question de la légitimité. Est-ce que tout ça va être présenté au Parlement ? Est-ce que tout ça sera débattu au sein de l'Assemblée nationale, là où il y a quand même une représentation une représentativité quand même du peuple ? Je suis pas sûr que ce soit dans les choix stratégique d'Emmanuel Macron, puisqu'effectivement, il y a certaines des mesures qui sont annoncées qui devraient être prises très très rapidement. Et donc, qui dit très rapidement, dit sans doute pas de consultation ni du peuple, ni des parlementaires. Et donc, ça pose quand même à la fois une question sur le fond, évidemment, et une question sur la forme, sur la manière dont ces propositions seront rendues légitimes.
Sachant que la consultation du peuple, c'est quelque chose qui tient à cœur du mouvement des Gilets jaunes, puisque le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, y revient beaucoup dans ses demandes. Céline Boisson, c'est vrai, le président va prendre la parole avant que toutes les contributions du grand débat n'aient été analysées. Il fallait parler tout de suite quand même, il y avait urgence à remettre les pendules à l'heure pour poursuivre la métaphore.
Il avait annoncé cette date hein, du 15 avril, donc je pense qu'il est, lui en tous les cas, il me semble qu'il est important pour lui de regagner sa crédibilité, sa légitimité de façon assez urgente, notamment par rapport aux prochaines élections européennes, ça c'est la première chose, et aussi pour essayer d'assainir, ou en tous les cas, on en est à un nombre d'actes, un nombre de samedis tellement important que il est urgent à un moment donné de mettre de l'ordre dans tout ça, en tous les cas. Donc cette date du 15 avril, je pense que c'est aussi cette raison-là. Et puis, on arrive à un moment où il va, j'ai l'impression, avec cette intervention solennelle, il veut clore quelque chose. Il veut, il y a un avant et il y a un après.
C'est ce que Sibeth Ndiaye a dit d'ailleurs ce soir. Elle a dit rien ne sera jamais plus comme avant, visiblement, après les annonces de demain.
Après les annonces de demain. Il met la barre, enfin, la barre est mise assez haute, puisque je suis d'accord avec vous, il ne pourra jamais satisfaire tout le monde. Donc, il y aura des déceptions. Il va falloir gérer aussi les déceptions.
Sachant qu'il y a déjà aussi un acte 23. Qui est prévu de manifestation samedi prochain. Donc ça peut avoir un effet un peu dévastateur.
Des gilets jaunes qui étaient déjà plus nombreux ce samedi que la semaine dernière.
Donc cet instant de demain va être très décisif par rapport à ça.
Oui, mais de toute façon, c'est de la part d'un mouvement qui n'a jamais accepté le principe même du grand débat. Donc des conclusions qu'on peut en tirer, on comprend que le mouvement se poursuive. Mais justement, donc du fiscal, du social et sans doute aussi de l'institutionnel, sur éventuellement un peu plus de proportionnel ou pas, etc. Mais c'est vrai que la principale difficulté, c'est comment arriver à concilier tout ça. Parce qu'en fait, tout dépend un peu à qui on s'adresse. On voit bien depuis le départ dans le mouvement des Gilets jaunes que, quelles que soient les annonces, je rappelle quand même qu'il y a près de 11 milliards d'euros qui ont déjà été annoncés en décembre, ça n'est jamais suffisant. C'est ça la complexité. Et effectivement, après, on revient sur la légitimité de ces nouvelles mesures qui sont prises dans un contexte un peu particulier.
On va se demander à qui va parler Emmanuel Macron demain, juste après l'essentiel de l'actu, il est 20h10. Léo Técher, c'est à vous pour le résumé de l'info.
Des premières mesures concrètes et de grands chantiers annoncés demain par Emmanuel Macron, c'est ce que dit le communiqué de l'Élysée ce soir. Le président s'exprimera demain à 20h après 4 mois de grands débats. Allocution à suivre sur France Info. Il répondra ensuite mercredi aux questions des journalistes lors d'une conférence de presse, la première depuis le début de son quinquennat. Le défenseur des droits demande une enquête dans les commissariats parisiens. France Info a pu consulter le dernier rapport de Jacques Toubon, une enquête de 6 ans qui dénonce des consignes et des ordres discriminatoires, des contrôles d'identité visant certaines catégories ethniques. La diaspora algérienne de nouveau rassemblée sur la place de la République à Paris, des milliers de manifestants pour une vraie démocratie. Ils réclament toujours le départ du système Bouteflika et notamment du président nommé par intérim mardi, Abdelkader Ben Salah. Le leader du top 14 de rugby renverse son dauphin. Toulouse s'impose 47 à 44 contre Clermont et se qualifie par la même occasion pour les demi-finales du championnat. Et puis, c'est un Belge qui remporte l'enfer du Nord, le cycliste Philippe Gilbert, sacré au sprint sur les pavés du Paris-Roubaix. Il est âgé de 36 ans.
France Info.
20h, 21h, les informés, Camille Revel.
À qui va parler Emmanuel Macron demain? Aux Gilets jaunes, à sa base, à tous les Français? David Boëry, question multiple.
Je dirais que logiquement, étant donné le cadre qui a été retenu, c'est-à-dire c'est une allocution à 20h à la télévision, logiquement, il est censé s'adresser aux Français et pas uniquement aux Gilets jaunes.
C'est une adresse à la nation, d'ailleurs.
Oui. Donc,
effectivement, des propositions qui vont être sans doute assez diversifiées, c'est-à-dire que les revendications des Gilets jaunes, on voit que les Gilets jaunes, enfin, on a eu le temps d'analyser que pour eux, il y avait notamment des questions de pouvoir d'achat qui étaient très importantes, questions de démocratie participative, et que c'était aussi des gens qui, en grande majorité, n'avaient plus confiance dans le système. Les participants au grand débat sont beaucoup plus des gens qui sont finalement assez proches de l'électorat peut-être de La République En Marche, qui regardent plus les choses à moyen terme et qui finalement n'ont pas tellement de problèmes de fin de mois. Et effectivement, comment combiner les deux? Je pense que ce qui serait très malin, c'est d'arriver à répondre à ces deux. Il ne faut pas exclure l'un sûr, contre l'autre.
Mais c'est précisément le principal écueil de l'exercice de demain. Parce qu'il ne faut pas non plus que ça devienne un catalogue sans fin de mesures pour plaire à tout le monde.
Alors Pierre-Jacquemin, c'est quoi la recette miracle? Est-ce qu'il y en a une?
Il devrait y en avoir une. En l'occurrence, c'est vrai qu'on arrive à un moment donné du quinquennat qui est décisif, vous l'avez dit. Je pense que il avait été question un temps que, possiblement, puisque aujourd'hui le peuple, on avait redonné la parole au peuple, pour que le peuple puisse trancher, que ce soit pas que Emmanuel Macron, en grand jupitérien, qui décide de trancher seul sur la base de remontées dont on ignore exactement quels étaient vraiment les points les plus cruciaux. Et d'ailleurs, si on reprend les éléments des remontées justement de ces grands débats, ils ont tous convergé vers l'idée, en tout cas au gouvernement, ils ont tous convergé vers l'idée qu'il y aurait un grand ras-le-bol fiscal des Français. Sans doute y a-t-il un ras-le-bol fiscal, mais certes pas de la fiscalité en elle-même. La fiscalité, c'est ce qui paye les écoles, les impôts, les hôpitaux, pardon, et bien des choses encore. Donc, du coup, il faut juste se rendre compte que les Français ont un ras-le-bol, mais un ras-le-bol de l'injustice fiscale. Et c'est ça qui devrait être aujourd'hui retenu par cette majorité, c'est de dire oui, on s'est sans doute trompé jusqu'à maintenant dans la lecture de la société, la lecture, le climat social de la société, et que donc aujourd'hui, peut-être qu'effectivement, compte tenu du fait qu'on arrive à un quinquennat, à une moitié de quinquennat qui est quand même particulièrement en crise, avec une cote de popularité qui est quand même très décevante pour le président de la République, et que donc sans doute que les choix qui étaient les premiers choix, qui étaient ceux de dire on va passer par un vote, par un référendum, pour oui ou non pour l'ISF, oui ou non, j'en sais rien, quels seraient les sujets, mais sans doute faut-il repasser par un vote aujourd'hui. Je pense que ça serait la seule légitimité aujourd'hui pour que le quinquennat puisse repartir. Je ne sais pas si c'est une dissolution, je ne sais pas si c'est un référendum sur des propositions concrètes, mais je pense que le grand coup que les gens attendent, c'est celui-là avant tout d'abord, parce qu'aujourd'hui le gouvernement, la majorité n'a plus réellement de légitimité.
C'est une boisson, c'est votre avis aussi.
Pour moi, pour demain, il y a deux choses extrêmement importantes. C'est un, la nature des mesures qui vont être annoncées, même si elles sont nombreuses, il faut qu'elles soient durables et pérennes. C'est-à-dire, je pense que il faut assurer une non-remise en question dans quelques mois, l'année prochaine ou au prochain quinquennat. Enfin, ça, c'est très important, quelle que soit la mesure qui va être décidée. Et la deuxième chose, c'est que, je rejoins ce que vous dites, il faut une rupture. Il faut qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils se mettent en danger, il faut qu'ils se remettent en question, et une vraie preuve de cette remise en question. Alors, est-ce que c'est sur une mesure en particulier, sur la forme ou sur autre chose? J'ai pas la réponse, mais en tous les cas, cette rupture, elle est attendue, mais véritablement, de façon profonde et durable.
Ce sont les éléments de langage de ce soir, en tout cas. En tournant, rien ne sera plus comme avant, c'est ce que semble promettre l'exécutif.
Oui, mais en même temps, dire que la majorité actuelle aurait perdu toute légitimité
dans
la crise, je trouve que c'est aller un petit peu loin quand même. On va pas retenir dans l'histoire que la mobilisation de quelques dizaines de milliers de personnes qui, certes, se présentent comme le peuple.
On en est quand même là aujourd'hui parce qu'il y a une mobilisation, oui, certes, pas très majoritaire, mais qui a quand même fait reculer pour la première fois, alors qu'Emmanuel Macron s'est fait lire en disant « je ferai ce que j'ai dit que je ferai », et il a commencé à le faire. Et les deux seules fois où il a reculé, ça a été Notre-Dame-des-Landes en début d'année et les Gilets jaunes. Donc c'est pas rien ce qui s'est passé
et
avec les Gilets jaunes.
Et
aujourd'hui, le mouvement des Gilets jaunes a créé le grand débat, et donc il est un peu comptable aussi de ce qu'on proposait,
sur cette question,
de ce qu'on fait les Gilets jaunes.
De cette crise des Gilets jaunes,
la question de la légitimité, quand même, elle se pose pas que dans la rue.
Elle se pose par le Parlement.
Voilà, il y a quand même un président est élu pour 5 ans, un Parlement est élu pour 5 ans. Donc cette légitimité-là existe tout de suite. Il n'y a eu aucune décision infamante de Emmanuel Macron. Il a fait des choix politiques. Il peut en faire d'autres, mais en tout cas, en sa qualité de président, il est bien dans son rôle. Le Parlement, il y a une majorité qui a été élue par les Français, donc il suit la politique de la majorité. Donc la légitimité, elle est là, mais effectivement, comment, et c'est là où je vous rejoins, comment prendre en compte ces revendications, cette colère qui a été extrêmement forte et puissante. Aujourd'hui, à mon avis, cette colère, elle dérive. Hein. On voit les casseurs, etc. Donc il y a une combinaison de facteurs extrêmement différents. Mais comment reprendre, comment associer finalement cette colère et faire en sorte que les institutions la reprennent à leur compte? Moi, l'idée d'un référendum, je suis très prudent là-dessus. Les référendums, on peut presque leur faire dire ce qu'on veut. Et lorsque un référendum est tenu, qu'on fait le Brexit, ça n'envoie pas un message clair, ça ne donne pas une direction précise. Donc, on peut imaginer un référendum si ça peut finalement donner l'impression. Franchement, ce serait un peu cosmétique, hein, qu'on va écouter un peu plus le peuple. Mais voilà, il faut être prudent avec cet instrument.
Sur la question de ces mesures, de ces annonces, il y a une question en suspens, c'est celle de la taxe carbone, hein, celle qui a déclenché la colère des Gilets jaunes. qu'est-ce qu'elle va devenir? Eh ben, réponse ou plutôt non-réponse de la ministre des Transports, Elisabeth Borne. C'était tout à l'heure sur France 3. Écoutez.
Ce qui est clair, c'est qu'on ne va pas refaire la taxe carbone telle qu'elle était prévue précédemment. On a bien entendu les Français qui nous disent augmenter les taxes sur les carburants pendant que nous, on n'a pas d'autre solution que la voiture. C'est pas possible. Donc, on a bien entendu ce message. On entend aussi ceux qui nous disent « Vous en faites pas assez pour le climat ».
Alors, vous savez, est-ce qu'elle a abandonné ou pas ?
Je vous dis, c'est pas si simple que ça. À la fois, des Français nous disent « Il faut faire plus pour le climat » et d'autres nous disent « Voilà ».
Je vous demande si elle est abandonnée ou pas.
Dans la forme qui était prévue précédemment, oui, clairement.
Alors, est-ce qu'elle est abandonnée ou pas dans la forme prévue avant, clairement?
On remarque juste dans la non-réponse qu'en fait, elle ne veut pas admettre en tant que membre du gouvernement que la façon dont ça avait été conçu au départ était juste hors sujet ou raté. On l'a dit depuis le début, dès la mi-novembre, la fiscalité sur les produits pétroliers, l'idée de départ était de donner ce qu'on appelle un signe prix pour apprendre à s'en passer. Mais effectivement, le fait d'aider les personnes qui se retrouvent aujourd'hui prisonniers, entre guillemets, de leur voiture, n'a pas été suffisamment pris en compte. Et ça ne l'est toujours pas, parce qu'en fait, si on regarde bien, dans les mesures annoncées en décembre pour la fameuse prime pour changer de véhicule et acheter un véhicule moins polluant, reste très en dessous des besoins pour réellement changer de modèle.
Sur l'écologie, on voit bien qu'il y a un mouvement de population fort, des mouvements citoyens. On voit les mouvements de collégiens ou de lycéens qui ne sont pas aussi puissants que certains le disent. Mais enfin, il y a quand même cette sensibilité chez les jeunes. La tribune de Nicolas Hulot, on en parlera tout à l'heure dans le JDD, c'est quand même une façon de mettre la pression sur le président Macron aujourd'hui sur certains enjeux écologiques. Et pour Nicolas Hulot, visiblement, il faut avancer dans la taxation et pour la transition écologique. Donc la pression est là.
On va continuer à parler de ces questions et notamment de la question de la justice fiscale juste après l'essentiel de l'info. Il est 20h20, c'est à vous Léo Téchère.
Les urgences de Paris en grève ce soir, salaire, effectif, sécurité. Les infirmiers et aides-soignants de l'APHP dénoncent des conditions de travail qui se dégradent. L'urgentiste Patrick Pulou demande d'ailleurs sur France Info une prime nationale et une reconnaissance de leurs spécificités. L'accueil des patients ne devrait toutefois pas être impacté. Éric Coquerel n'attend pas de miracle des annonces d'Emmanuel Macron. Demain, à 20h, sur France Info, le député de la France Insoumise estime que le grand débat national n'aboutira qu'à ce que le président veut lui-même et donc pas un grand tournant social, économique ou écologique. Un président 120 mètres sous les mers pour alerter sur la protection des océans. C'est le président des Seychelles qui est descendu au fond de l'océan Indien aujourd'hui en short et en t-shirt dans un petit sous-marin. Il estime que l'humanité est à court d'excuses et de temps pour défendre l'environnement. C'est un peu la finale du championnat de France de football ce soir. Le Paris Saint-Germain contre Lille, son dauphin, et tout est un peu joué d'avance. Paris n'a besoin que d'un match nul pour être sacré. Coup d'envoi à 21h. Et puis le tennisman Benoît Paire s'offre le deuxième tournoi de sa carrière à Marrakech. Il détrône le tenant du titre, l'Espagnol Pablo Andújar, en 2-7, 6-2, 6-3.
France Info. 20h, 21h, les informés, Camille Revel.
Emmanuel Macron prend donc la parole demain soir, 20h, pour annoncer les mesures à l'issue du grand débat national. Après plusieurs mois de crise des Gilets jaunes, que doit dire le chef de l'État dans les oppositions? Tout le monde a son avis, je vais vous proposer d'écouter deux avis. Prenons d'abord celui du patron des Républicains, Laurent Wauquiez, écoutez.
Parce qu'en France, le problème, c'est pas seulement le niveau d'impôt, c'est que les impôts sont concentrés sur les mêmes. Et les mêmes, c'est qui? C'est ceux qui sont au milieu. C'est les classes moyennes. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est une baisse de l'impôt sur le revenu pour tout le monde, simple, clair, pas d'usine à gaz, moins 10% pour tous ceux qui payent l'impôt sur le revenu.
Voilà pour Laurent Wauquiez sur BFM. À gauche, Raphaël Glucksmann, tête de liste PS Place Publique pour les Européennes, voilà ce qu'il dit.
Oui, la mesure première qui devrait être prise, s'il avait le courage de changer de cap, justement, eh bien ce serait de mettre fin à l'injustice fiscale de son quinquennat.
Et donc,
soit en rétablissant l'impôt sur la fortune, soit en établissant une nouvelle tranche d'imposition pour les plus hauts revenus.
Voilà, ça c'était Raphaël Glucksmann sur CNews. Laurent Wauquiez, Raphaël Glucksmann, évidemment, avis très différent. Question, le président, il écoute son aile droite ou son aile gauche, Pierre Jacquemin?
En tout cas, quand on écoute son Premier ministre la semaine dernière, on a clairement l'impression que il veut reprendre la main et il a presque eu envie de dire ça suffit le fantasme du et de droite et de gauche, et il faut assumer une politique de droite. Et je pense que c'est à peu près la cohérence de cette politique depuis le début du quinquennat. C'est une politique libérale, c'est une politique de réduction des dépenses publiques, c'est une politique de suppression des effectifs d'une manière générale dans la fonction publique. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, la volonté de ce gouvernement, en tout cas celle du Premier ministre, et je pense que ça n'échappe pas non plus à la volonté du président de la République, elle est de continuer, elle est d'aller beaucoup plus loin. Sans doute iront-ils peut-être ajouter une tranche, comme le propose là à l'instant Monsieur Glucksmann. Je ne crois pas que ce soit ce qui soit attendu des Français. Quand on parlait de rupture radicale, c'est que je pense qu'on a besoin de rupture radicale. C'est pas d'une tranche de plus dont on a besoin, c'est de 10 tranches de plus, sans doute, pour qu'il y ait un véritable étalement, une véritable fiscalité qui soit justifiée. L'ISF, c'est pas ça qui va changer la donne de manière considérable sur la fiscalité et sur les recettes de l'État. Mais quand même, c'est un symptôme, c'est un symptôme, et c'est même plus qu'un symptôme, c'est un marqueur fort. Et je pense qu'aujourd'hui, on aurait voulu entendre, quand on me parlait d'écologie à l'instant avec Madame Borne, on aurait voulu l'entendre dire, je vais être clair, et si être clair pour elle, c'est de dire ce qu'elle a dit, je n'ai rien compris à ce qu'elle a dit, et on ne comprend pas ce qu'ils veulent faire. C'est le problème de ce gouvernement, il n'y a pas de cap, il n'y a pas de vision stratégique de long terme. Regardez, la vision stratégique de long terme, elle consiste à privatiser Aéroport de Paris. Ça veut dire qu'on va empocher, je sais pas combien de milliards d'argent dans les poches de l'État, mais c'est un one shot, ça veut dire qu'il n'y a pas de vision. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura perdu cet argent, il aura été investi, encore que, je suis même pas sûr. Mais il n'y a pas de vision de long terme. Et c'est ça qui est problématique, c'est qu'on ne sait pas vers où on va.
Jean-Christophe Pleguin, c'est votre avis, pas de vision de long terme ?
Alors, je pense que s'il y a un procès qu'on peut pas faire à Emmanuel Macron, c'est celui-là. C'est que il est quand même arrivé avec un programme qui était un programme de réforme de l'État, de la France, et c'était vraiment un programme pour un quinquennat. Mais effectivement, les événements sont venus perturber. Mais je pense que son cap à long terme, il le maintient. Je suis d'accord que Édouard Philippe apparaît. Alors, est-ce que c'est une distribution de rôle, un peu comme le père Larigueur ? Et effectivement, il est extrêmement soucieux. Je dirais des équilibres publics, et on sent qu'il a du mal à aller, on va dire, vers une ligne un peu à saisir les perches d'un Laurent Berger précisément, donc qui lui propose et suggère davantage de redistribution et à destination des classes moyennes. Et donc je pense que le signal qu'on attendrait effectivement d'Emmanuel Macron, c'est effectivement un signal qui irait vers un peu les classes moyennes et effectivement vers davantage de redistribution.
Céline Boisson, si Édouard Philippe endosse le costume de Père Larigueur, comme le dit Jean-Christophe Pleguin, il doit endosser quel costume demain soir Emmanuel Macron ? Père de la Nation ?
Je ne sais pas, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait une intervention assez solennelle. Hein, donc, et du coup, qui dit solennelle me laisse penser au fait qu'elle sera certainement assez classique. Donc, fidèle à lui-même, c'est-à-dire en tant que président, celui qui va décider, imposer, suivre sa direction qui sera la sienne. Voilà, après j'espère qu'il aura quand même entendu tout ce qui s'est dit et qu'il l'aura pris en considération. Mais voilà, je pense que ce sera assez... Le côté solennel me laisse entendre que ce sera finalement fidèle à lui-même.
Il va annoncer des mesures concrètes, symboliques. Qu'est-ce qu'il faut annoncer ? Est-ce qu'il faut annoncer des mesures à effet immédiat, David Boeri ? Quelque chose qui aura un effet tout de suite sur la vie des Français ?
Je reviens juste sur les histoires de fiscalité, parce que ça pourrait éventuellement être encore plus redistributif, mais il faut déjà quand même avoir en tête que en France, ça l'est énormément par rapport à d'autres pays, notamment en Europe. Je parle pas... d'autres pays comme les États-Unis où bien sûr c'est absolument pas comparable. Après, le seul danger dans la baisse des impôts, c'est que c'est un peu comme la hausse du SMIC, c'est un puits qui risque d'être très rapidement sans fond. C'est-à-dire que en fait, concrètement, on a tous toujours l'impression de payer beaucoup trop d'impôts. Donc, en payer moins, on est tous d'accord. Mais si on revient sur les mesures qui, telles qu'elles peuvent être éventuellement annoncées demain, ce sera jamais assez, en réalité. Alors après, pour être un peu plus complet sur la fiscalité, y a une chose qui est vraie, c'est que quand on parle des classes moyennes, moyennes et moyennes supérieures, c'est vrai que depuis 2012, ces Français-là ne font que payer plus d'impôts.
Et on va continuer à parler des futures annonces d'Emmanuel Macron, ses appels à la fiscalité juste. C'est justement ce qui est lancé dans une tribune du JDD. On en reparlera avec nos informés dans 5 minutes sur France Info, avec vous Céline Boisson, Pierre Jacquemin, David Boëry, Jean-Christophe Ploquin. On se retrouve juste après votre météo et après l'info. A tout de suite sur France Info.
France Info Trafic avec Calibat, 73 000 entreprises pour vos travaux de construction et de rénovation. Retrouvez-nous sur calibat.com.
Olivia Chandiou, des difficultés sur la 13 ce soir.
Oui Camille, d'abord en raison de cet accident dans le sens Paris-Région à hauteur de Bougival. Trois véhicules sont impliqués, soyez prudents. La voie de gauche est fermée et puis toujours sur la 13 en direction de Paris. Cette fois, il y a une quinzaine de kilomètres de ralentissement dans les Yvelines entre Aubergenville et Orgeval. Attention à cet accident sur l'autoroute A20 à la sortie de Montauban. Trois véhicules sont impliqués, la voie de gauche et la bande d'arrêt d'urgence sont neutralisées. Un bouchon s'est formé à cet endroit. Et puis la Nationale 10 en direction de Bordeaux est fermée au sud d'Angoulême en raison d'un accident entre deux voitures et un poids lourd.
France Info Météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, récoltés à la main par les petits producteurs dans le respect de la biodiversité. À retrouver sur malongo.com.
Et voici les prévisions de Jean-Michel Golinski.
Demain, sur la façade atlantique, le ciel de plus en plus chargé va finir par donner un peu de pluie en soirée et du vent sur les côtes, jusqu'à 90 km à l'heure sur le sud de l'Aquitaine, tandis que sur le reste du pays, avant l'arrivée de la pluie mardi, le soleil aura encore de belles heures devant lui. Après les nuits froides et les journées fraîches du week-end, notamment sur les régions de la moitié nord, c'est une masse d'air beaucoup plus douce qui va survoler la France dès le début de la semaine, avec de rares et faibles gelées en plaine en fin de nuit sur la Sologne, le Nivernais et la Champagne, et l'après-midi des valeurs repassant au-dessus des moyennes, de l'ordre de 16 à 18 degrés au nord de la Loire et du nord-est à Rhône-Alpes. Autour de la Méditerranée, les valeurs vont conserver à peu près le même niveau qu'aujourd'hui, tandis que dans le sud-ouest, on atteindra jusqu'à 26 degrés du Pays Basque à la Bigorre et 20 à 22 le long de la Garonne.
Passez une excellente soirée avec nous à l'écoute de France Info. Bienvenue si vous nous rejoignez, il est 20h30.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
Et l'info, c'est avec vous Emmanuel Langlois.
Bonsoir, Emmanuel Macron s'exprimera donc lors d'une allocution, ce sera demain à 20h. D'après l'Élysée, le chef de l'État devrait évoquer les chantiers d'action prioritaires et avancer les premières mesures concrètes en réponse au grand débat qui dure depuis 3 mois et à la crise des gilets jaunes. Il reçoit d'ailleurs ce soir une partie du gouvernement pour un dîner à l'Élysée. La thèse du suicide privilégiée après la découverte d'un policier mort à Paris, à son domicile, son arme de service à ses pieds. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, avait annoncé vendredi la mise en place d'une cellule de vigilance, alors que 24 policiers et 2 gendarmes se sont donné la mort depuis le début de l'année, un nombre en forte hausse. C'était il y a 6 mois, tout juste, dans la nuit du 14 au 15 octobre 2018, le département de l'Aude était frappé par une vague d'inondations qui fera 14 morts et des milliers de sinistrés. Ville d'Hubert, village de 350 habitants dans les environs de Carcassonne, avait alors été durement touché. Plusieurs familles ont dû évacuer de chez elles par hélicoptère. Aujourd'hui, sur place, l'heure est au souvenir, mais aussi à la reconstruction, comme l'évoquait tout à l'heure sur France Info le maire de la commune, Marc Rofès.
On est dans la reconstruction hein, qui va être longue et on nous l'a annoncé au niveau des services de l'État, ça va être très long. Puis là, on arrive aussi dans une situation un peu difficile avec les destructions de certaines maisons, avec tout ce que ça peut entraîner au niveau sentiment et attache familiale. Donc les différents maires des communes touchées vivent eux-mêmes des moments difficiles d'accompagnement de ces familles. Hein. Par force, la vie reprend le dessus et on continue à se battre pour reconstruire et essayer de retrouver chez soi digne de ce nom. Quoi. Bon, je vous cacherai pas que c'est assez long et que c'est des combats difficiles avec des assurances. Mais je crois que il me semble, sur ce que j'entends un peu dans les communes alentours, que les assurances jouent le jeu. Alors ça dépend bien sûr des groupes, mais je crois que j'espère au moins que tout le monde va y retrouver ses billes.
Marc Rofès, le maire du village de Ville d'Hubert dans l'Aude. Une première sans doute depuis 16 ans en Finlande. Le parti social-démocrate est en tête des élections législatives d'après des résultats partiels. Il devance les conservateurs et l'extrême droite. Les Finlandais qui étaient appelés aux urnes après 4 ans d'austérité qui ont ont permis de sortir le pays scandinave de l'ornière. Pelé va mieux. L'état de santé de la légende brésilienne du football, âgée de 78 ans, évolue de manière satisfaisante 24 heures après s'être fait retirer un calcul rénal à l'hôpital de Sao Paulo au Brésil. Et puis un mot de rugby et de top 14. Toulouse premier qualifié pour la phase finale après sa victoire 47-44 sur Clermont. Le Racing 92 lui se rapproche des barrages et repousse Montpellier. Victoire in extremis des Franciliens sur le score de 26-25. 20h33 sur France Info. Les informés, ça continue.
Les informés, Camille Revel.
Et dans moins de 24 heures maintenant, Emmanuel Macron prendra la parole à la télévision, allocution solennelle à la nation pour annoncer les mesures prises suite au grand débat. Après la crise des gilets jaunes, elle dure depuis plusieurs mois. Maintenant, on en parle toujours avec nos informés. Céline Boisson, directrice associée de l'agence de communication Nude, Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de la revue Regard, David Boëry, journaliste à France Télé, Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef à La Croix, notre partenaire du dimanche soir dans les informés. Mais que va bien pouvoir dire Emmanuel Macron? Bien, Nicolas Hulot, lui, a son idée. Il se rappelle au bon souvenir du chef de l'État. L'ex-ministre co-signe une tribune avec 14 autres personnalités du monde écologiste, associatif ou syndical, notamment le numéro 1 de la CFDT, Laurent Berger. C'est dans le JDD. Le titre de cette tribune, c'est le quinquennat à qui tout double. C'est un appel à un sursaut politique sur les questions de transition écologique et de justice sociale. Et le message global, le voilà, la rigueur budgétaire n'est pas un projet économique. Pierre Jacquemin, ce message, est-ce qu'il peut l'entendre Emmanuel Macron? Est-ce que c'est dans son logiciel?
D'abord, peut-être, je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure. Enfin, ça a à voir avec ce qu'on va se dire maintenant. Mais c'est vrai que quand je parlais de la question de la légitimité, je remets pas en cause la question de la légitimité du président de la République. Ce que je dis, c'est que on est dans un système légitime.
De sa politique.
Il y a une légitimité de la politique qui va se poser là maintenant selon les décisions qui vont être prises. Mais par ailleurs, le problème de son quinquennat, c'est de ne pas avoir écouté les partenaires sociaux. C'est de ne pas avoir écouté la société civile qui s'exprimait, les associations, notamment les associations de défense de l'environnement. Là, il y a une nouvelle, effectivement, interpellation de Nicolas Hulot, de Laurent Berger, d'autres associations qui notamment évoquent les sujets liés au sans-abri, enfin à la précarité, à la grande précarité de manière générale. Donc ça va, je pense que depuis 2 ans et demi, il a entendu quelle était la détresse de plusieurs personnes de la population, enfin de plusieurs pans de la société française, puisqu'on est vraiment dans une paupérisation, dans une précarisation de la société française. Donc oui, je pense que quand je parlais de cap et de vision tout à l'heure, la seule question de la rigueur budgétaire telle qu'elle est prônée à l'échelle européenne ne peut pas faire en soi un projet politique. Quand on fait de la politique, quand on est observateur de la politique, on a envie qu'un acteur politique qui s'engage pour changer la vie des gens, pour changer radicalement la vie des gens, pour que les gens vivent mieux, pour que les gens travaillent de manière confortable, qu'ils aient pas à devoir travailler même après l'âge de la retraite pour pouvoir vivre décemment de leur retraite. C'est tout ça dont on a besoin de réponses. Ces réponses-là qu'on attend du président de la République. J'espère qu'il va entendre le message. Je suis pas sûr, encore une fois, compte tenu des premiers éléments qu'on entend de la part de ce gouvernement en disant qu'aujourd'hui le ras-le-bol fiscal conduirait aujourd'hui à réduire justement les impôts, ce qui veut dire donc ne pas entendre ce qui se passe dans les communes rurales en termes d'absence de services publics. C'est tout ça qui ne va pas. Donc j'ai peu d'espoir sur les annonces de demain et j'ai surtout l'impression que la crise qui commençait justement peut-être à s'estomper risque de redémarrer face à la colère d'une non-compréhension, d'une non-appréhension justement de la colère des citoyens et des demandes justement des Français.
Jean-Christophe Ploquin, cette tribune, c'est le retour des corps intermédiaires.
Exactement, je suis d'accord avec Pierre Jacquemin, c'est vraiment très frappant. Quand on regarde qui parle, finalement, ce sont des grandes ONG du social qui ont des réseaux à travers tout le territoire. Ce sont des syndicats réformistes, il y a la CFDT, mais il y a aussi l'UNSA. Et ce sont des réseaux écologiques et environnementaux qui, eux aussi, sont très implantés à travers le territoire. Donc, ils sont vraiment des acteurs légitimes et ce sont effectivement typiquement des corps intermédiaires. Et qu'est-ce qu'ils disent, effectivement? Moi, je trouve que la tribune est assez courte, finalement, mais on peut relire aussi ce que disaient Nicolas Hulot et Laurent Berger et déjà 19 autres organisations le 5 mars. Ils défendaient un pacte écologique et social. Et c'est quoi ce pacte? C'est finalement, il y a une urgence écologique et environnementale, pour la planète, rien que ça. Il faut une relance par la dépense, et ça, effectivement, c'est très loin de ce que prônent jusqu'ici Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Et enfin, une politique de redistribution qui doit être clairement assumée. Donc c'est véritablement un contre-projet, effectivement, par rapport à celui qui a été défendu jusqu'ici par le gouvernement.
Laurent Berger, d'ailleurs, il demande un plus de justice fiscale. Écoutez, c'était ce soir sur BFM.
L'idée, il n'est pas d'être anti-riche. Enfin, personne, en tout cas, c'est pas mon cas, je suis pas anti-riche. Je dis simplement que lorsqu'un pays a besoin de faire des efforts, il faut qu'il soit partagé et que ceux qui gagnent le plus soient mis à contribution.
Voilà, il faut que ceux qui gagnent le plus soient mis à contribution. David Bory, est-ce que ce message, finalement, c'est un appel à demander à Emmanuel Macron de décoller son étiquette de président des riches ?
Non, mais moi, je vais tout de suite vous provoquer parce que... Mais le seul truc qui me gêne dans la façon dont c'est formulé dans cette tribune, c'est de parler de rigueur budgétaire. Parce que je suis désolé, mais la rigueur budgétaire, on en est très très loin. Parce que quand on dit que cette année, pour la première fois depuis des décennies, on a réduit les dépenses de l'État, en réalité... on les a réduites de ce qu'elles auraient dû augmenter si on n'avait rien fait. Mais en valeur absolue, les dépenses continuent d'augmenter de façon un tout petit peu moins
rapide. Comme les richesses aussi d'ailleurs. Les richesses bien de sûr. France continuent d'augmenter bien sûr. De manière très considérable.
Mais donc, j'appelle pas ça réellement une rigueur budgétaire. Enfin, en tout cas, elle n'est pas réellement appliquée. Après, ce qui est très intéressant dans le raisonnement, et là, je les rejoins, c'est de dire que le problème de la transition écologique n'est pas d'ailleurs réellement un problème, mais plus une opportunité, et qu'en réalité, ça n'est pas qu'un coût, c'est aussi une opportunité de développement et de développement économique autrement. Et sur ce plan-là, je les rejoins, et c'est vrai que j'ai toujours été étonné de voir, y compris pendant la campagne présidentielle, que cet argument n'avait jamais été repris par Emmanuel Macron, alors que a priori, il se présentait comme un candidat très pro-business.
Non, mais il y a quelque chose de vraiment intéressant aussi dans cette tribune, c'est qu'on parle beaucoup, avec le grand débat national, les gilets jaunes, et de fiscalité. On dit on veut payer moins d'impôts. Oui. Moi, et dans cette tribune, on parle plus d'injustice fiscale. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant. Je pense que personne ici, et là je vais peut-être vous provoquer, mais on devrait être d'accord pour payer plus d'impôts. À partir du moment où on sait pourquoi on paye et comment c'est redistribué dans la santé, dans la sécurité. Et c'est là où est toute la frontière et tout le sujet. C'est pas payer moins d'impôts, c'est savoir qu'est-ce qu'on paye et surtout de ne plus d'avoir une certaine égalité aussi fiscale en fonction de son niveau de vie, de ses revenus, etc. Et cette tribune dénonce ça et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et je pense que le cœur du problème, il est là. Il est pas.
C'est surtout payer mieux d'impôts parce qu'il y a quand même une chose qu'on attend du président de la République. C'est qu'ils disent demain, voilà. On va aller chercher aussi l'argent qui part dans l'évasion fiscale, on va aller chercher l'argent des 1800 entreprises qui partent à l'étranger pour faire de l'optimisation
plus
fiscale.
D'égalité
voilà, exactement. Et quand il nous dit qu'il n'y a pas d'argent magique, quand le président de la République nous dit qu'il n'y a pas d'argent magique, s'il y a de l'argent magique, il faut aller le chercher, et notamment dans l'évasion fiscale. Et ça, c'est un point qui sera, à mon avis, très scruté, qui sera très regardé. J'espère que le président de la République fera des propositions en ce sens demain.
Réponse demain soir à 20h. Donc pour l'essentiel de l'actu, réponse tout de suite, il est 20h40. C'est à vous, Léo Téchère.
Emmanuel Macron prépare son discours, il reçoit une partie du gouvernement pour un dîner ce soir à l'Élysée. Le président qui s'exprimera demain à 20h pour dévoiler ses annonces après 4 mois de grands débats. Un discours que vous pourrez suivre sur France Info. Le Conseil français du culte musulman dépose plainte contre une conseillère régionale de Bretagne, l'ex-FN Catherine Blin, accusée d'apologie du terrorisme. Elle avait sous-entendu que l'attentat de Christchurch contre des mosquées en Nouvelle-Zélande était une vengeance. Au Soudan, les manifestants demandent à l'armée le transfert immédiat du pouvoir aux civils. L'association des professionnels soudanais maintient son appel à manifester pacifiquement pour atteindre les objectifs de la révolution. Un petit arrière-goût vintage pour la planète golf. Tiger Woods remporte le Masters d'Augusta en Géorgie aux États-Unis. C'est le premier titre du Grand Chelem depuis 11 ans pour l'ancien roi incontesté du golf. Et puis, ce doublé éthiopien sur le marathon de Paris, Gelleta Burka en 2h22 chez les femmes, Abra Milao en 2h07 chez les hommes. Ça représente tout de même une moyenne de 20 km/h tout au long des 42 km de course.
France Info. 20h, 21h, les informés, Camille Revel.
Et on parlait à l'instant de cette tribune signée dans le Journal du Dimanche par une quinzaine de personnalités de la société civile, du monde écologique, associatif, syndical aussi. Et dans cette tribune, justement, les signataires dénoncent des services essentiels sous-financés comme les hôpitaux. Aujourd'hui, justement, les urgences de plusieurs hôpitaux de Paris entament une grève illimitée. Bien sûr, l'accueil des patients va se faire normalement. C'est une grève symbolique, c'est pour réclamer plus de sécurité, de meilleures conditions de travail. Patrick Pelou est le président de l'Association des médecins urgentistes de France. Et pour lui, la colère des soignants est légitime, notamment parce que trop de responsabilités pèsent sur eux. Il nous l'a dit sur France Info.
le personnel est au front de la charge de travail au quotidien et il n'est pas responsable du manque de moyens, du manque de personnel, du manque d'organisation. Ce qui fait que quand vous avez un drame, tout le monde dénonce telle ou telle structure. Mais c'est pas telle ou telle structure et les personnels qu'il faut dénoncer, c'est l'ensemble du système qui ne va pas. Or, les services des urgences, entre la médecine de ville et les cabinets des médecins traitants et de ville que vous avez, et l'hôpital et les urgences, il n'y a rien, il n'y a pas d'alternative. Donc tout arrive au niveau des urgences. Ce mouvement, il faut l'entendre.
Il faut l'entendre, il faut que l'exécutif l'entende. Céline Boisson, est-ce que l'hôpital public est oublié des politiques publiques aujourd'hui ?
En fait, on n'en parle pas beaucoup des hôpitaux publics. Oui, je pense que ça fait partie des oubliés. Et ce sont des gens qui sont mis à part et qui sont pourtant dévoués et qui pleinent de plein front aussi l'évolution de la société, la paupérisation aussi des gens et qui vont au-delà de leur métier. Donc, je pense qu'il faut agir de façon assez urgente.
Ça fait des mois qu'il exprime, des années qu'elle est exprimée, cette colère des urgentistes, Jean-Christophe.
Ce que j'entends aussi dans le son de Patrice Pelou, c'est aussi effectivement quand il dit il n'y a pas de lien entre la médecine de ville et la médecine libérale et finalement le système hospitalier. Et là, je pense que c'est un vrai sujet, c'est un vrai enjeu. Je pense que les hôpitaux et le système de santé français est quand même assez connu pour être assez bon, hein, il y a plein de gens de pays voisins, les Italiens, les Britanniques qui vont dès qu'ils peuvent venir se faire soigner en France, mais parce qu'il y a des prises en charge aussi très importantes, il y a toujours mieux à faire et il y a certainement des hôpitaux et des services dans lesquels il faudrait pouvoir davantage investir. Je crois aussi que la question de l'organisation du travail et des 35 heures, etc. Bon, on sait combien ça a pesé sur les hôpitaux, mais il me semble qu'il y a cet enjeu un petit peu global de comment articuler la médecine de ville, comment faire en sorte que les médecins prennent des patients, peut-être à des heures aussi de nuit, et que tous, finalement, les patients qui ont une difficulté parfois très grave, mais parfois plus bénigne, ne se retrouvent pas, effectivement, dans les services d'urgence.
David Boiry.
Oui, mais justement, c'est là que Patrick Pelou a raison. Il parle de manque de moyens, mais c'est surtout un manque d'organisation. En fait, ce qui pose problème en France aujourd'hui, c'est le parcours des soins. Parce que, globalement, c'est vrai que la plupart du temps, vous n'avez pas le choix parce qu'il n'y a pas de médecins de garde, parce que les médecins libéraux ne sont pas forcément organisés partout pour pouvoir recevoir des patients en permanence. Et donc, les gens finissent aux urgences. Or, se retrouver aux urgences coûte entre 2 et 5 fois plus cher que juste une consultation. Parce que dans la plupart des cas, quand vous vous retrouvez aux urgences, vous n'allez pas aux urgences parce que vous avez besoin de tout le matériel, de toute la technicité qui est mobilisée aux urgences. Mais que c'est juste pour quelque chose de beaucoup plus bénin qui pourrait très bien être traité par un médecin de ville normal. Mais la désorganisation, donc logiquement c'est en train de se mettre en place parce qu'on a déjà prévu dans la réforme de santé de mettre au point des réseaux au niveau des territoires pour que les médecins s'organisent pour être plus disponibles pour les patients. C'est vrai qu'on peut toujours aussi rajouter des moyens, mais je pense que les urgences sont surtout aujourd'hui débordées parce que, concrètement, tout le monde, et pour quelle que soit la raison, débarque aux urgences. Et sachant en plus qu'à Paris, c'est aussi un des motifs de grève, ça finit en plus souvent en agression.
Il y a eu 5 agressions à l'hôpital Saint-Ouen. En l'espace d'une nuit, Pierre.
Oui, on parlait tout à l'heure justement de rigueur budgétaire. On est là justement face à un système hospitalier dans son ensemble. Hein, où il suffit d'effectivement de se balader dans des hôpitaux. Moi, je viens du Limousin. Je vois très bien les hôpitaux du Limousin. Je vois très bien les quelques hôpitaux de Paris aussi. La vétusté des bâtiments aussi. Il y a les conditions de travail de tous les personnels hospitaliers, d'une manière générale, qui sont quand même aujourd'hui très largement contestées et très largement dénoncées. Mais la rigueur budgétaire, elle consiste à quoi aujourd'hui? Elle consiste à dire aujourd'hui à des chefs d'entreprise, parce que je suis désolé, depuis une dizaine d'années, voire une vingtaine d'années, on ne nomme plus de personnel soignant à la tête d'un établissement comme un hôpital public. On nomme des gestionnaires, des énarques, des technocrates qui sont là pour répondre aux injonctions qui sont celles du ministère de la Santé. Mais les injonctions, elles sont simples. C'est réduire les dépenses. Il faut réduire les coûts. Comment on fait en sorte de mieux soigner les patients. C'est réduire les coûts. Faites tout ce que vous pouvez pour réduire les coûts. Et ça, en soi, ça ne fait pas un projet et ça ne fait certainement pas un projet de santé.
Alors, j'ai lu le livre. Les dépenses de santé ne font qu'augmenter en France.
C'est des très mauvais gestionnaires, mais
les dépenses de santé
ça ne
baissent
pas aux besoins des usagers.
Les dépenses de santé ne baissent pas.
Juste, je termine là-dessus parce que c'est Jean-Marie Godard qui est un fidèle, je crois, des Informés, qui est un journaliste et qui a écrit ce livre et qui est super, qui a fait un an d'enquête justement au milieu hospitalier, notamment au service des urgences. Il dit les urgences sont le cul-de-sac de beaucoup de choses. Et à partir du moment où il fait cette démonstration-là, effectivement, il dit qu'il y a un certain nombre de personnes qui viennent dormir à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que de venir dormir à l'hôpital et que donc ça montre le dysfonctionnement en amont aussi de tous les autres services sociaux qui existent dans notre pays. Donc le délitement, il commence d'en haut, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on décide d'enlever des moyens aux services d'hébergement d'urgence, c'est les hôpitaux qui prennent le relais. Donc c'est tout notre système, c'est pour ça qu'il ne faut pas minimiser l'idée qu'on est dans un système de rigueur budgétaire. Certes, il y a d'autres pays qui font beaucoup plus de rigueur, mais notre système aujourd'hui de rigueur fait que nos services publics sont en train d'être délités petit à petit.
Avec, je le répète, des dépenses de santé qui ne font qu'augmenter tous les ans.
Je voulais juste préciser aussi que la raison de la grève des urgences des hôpitaux de Paris, c'est aussi un vrai problème de sécurité. Qu'on ne peut plus minimiser parce que il y a eu ces agressions à Saint-Antoine, parce que le personnel est seul la nuit, ne peut pas gérer et les personnes malades et les personnes qui, parce qu'il y a beaucoup d'attentes, mais aussi parce que tout le monde aussi se réfugie aux urgences, il y a un vrai problème de sécurité. Ils demandent d'avoir des agents de sécurité, des caméras de surveillance, etc. Et c'est une revendication qu'il ne faut pas minimiser parce que le problème de sécurité aux urgences est vraiment réel et depuis longtemps, existe depuis longtemps.
Il y a autre chose que disait Patrick Peloux dans cette interview qu'on vient d'entendre, c'est on ne parle de ces personnels que quand il y a des drames. Alors il évoquait la mort d'une patiente aux urgences de la Riboisière après avoir 12 heures après son admission. Et effectivement, ces personnels, on ne parle d'eux que quand il y a ces drames-là, ce qui fait qu'ils ont trop de responsabilités qui pèsent sur eux, Jean-Christophe Ploquin. Ils sont oubliés finalement.
En tout cas, ils sont clairement en première ligne. Ça fait un peu penser aux pompiers finalement. Enfin, c'est vraiment une fonction et ce sont des corps dans la médecine de santé qui sont en première ligne. Souvent, ce sont des gens effectivement extrêmement doués, extrêmement dévoués. Et donc, je pense qu'il faut effectivement leur assurer un cadre de travail plus sécurisant.
On risque d'aller vers une désaffection, un découragement de ces professions, c'est une boisson.
Je pense pas qu'ils seront découragés parce que c'est vraiment des gens dévoués et on peut que les remercier heureusement qu'ils sont là. Mais je pense pas qu'il y en aura moins, j'espère pas. Mais il y a une urgence de les protéger. Enfin, ils nous protègent, il faut les protéger.
Ils sont en grève ce soir, mais ils ont déjà d'ores et déjà annoncé qu'ils accueilleraient évidemment les publics qui seraient présents. Ce que dit le livre de Monsieur Godard, qui est, je vous invite vraiment à le lire parce qu'il est passionnant et on comprend vraiment ce qui se passe en milieu hospitalier, c'est que les maladies des burn-out, par exemple, commencent vraiment à envahir le milieu des urgences et des médecins urgentistes et des infirmiers. C'est vraiment un nouveau phénomène qui arrive dans cette profession, la question des burn-out qui est vraiment très présente. Donc c'est assez préoccupant, oui.
Il est 20h50 sur France Info. Voici l'essentiel de l'actualité avec Léo Téchère.
Un petit point, c'est tout ce qu'il faut au Paris Saint-Germain pour être sacré champion de France ce soir à Lille, coup d'envoi dans moins de 10 minutes. Un match nul suffit aux Parisiens contre le deuxième du championnat. Et pour ce match, Kylian Mbappé revient dans le 11 de départ. Emmanuel Macron a fait monter les attentes, 5 mois de crise des Gilets jaunes, 4 mois de grands débats et des promesses depuis plusieurs semaines. Il s'exprimera demain à 20h à la télé sur France Info. Annonce des premières mesures et des grands chantiers, dit ce soir le communiqué de l'Élysée. Éric Coquerel applaudit Jacques Toubou sur France Info. Le défenseur des droits publie aujourd'hui un rapport sur la police à Paris. Il demande une inspection dans l'ensemble des commissariats de la capitale après avoir constaté des consignes discriminatoires, ce que le député de la France Insoumise dénonce être une véritable plaie pour la société. Un avion de chasse abattu près de la capitale de la Libye. Aujourd'hui, un avion des troupes du maréchal Haftar qui veulent prendre possession de Tripoli. Les combats continuent et ont fait 121 morts depuis 10 jours. Et puis, 150 jeunes venus de toute la France se sont réunis aujourd'hui à Nancy, des lycéens et des étudiants engagés pour le climat. C'était les assises de Youth for Climate, le mouvement qui réunit des centaines de milliers d'élèves grévistes à travers la planète. Ils réfléchissaient à l'avenir de leur mouvement et devraient par exemple organiser des camps d'été.
France Info.
20h, 21h, les informés, Camille Revel.
Une dernière question sur cette grève des urgentistes. Est-ce que la question de l'hôpital public a été suffisamment évoquée pendant le grand débat, Jean-Christophe Ploquin ?
J'ai l'impression que pas forcément. Mais voilà, ça peut vouloir dire aussi qu'il ne faut pas tenir compte que du grand débat.
Alors que la santé a été un des thèmes les plus abordés pendant le grand débat.
Oui, absolument. Mais effectivement, la question de l'hôpital public n'a pas vraiment ressurgi. Oui.
Ça veut dire alors qu'elle compte moins aux yeux de l'exécutif, Pierre Jacquemin ?
Je pense en tout cas que ça fait partie des choses qui doivent être entendues. C'est effectivement dans les prises de décision, en tout cas dans les prises de position du gouvernement quand il parlait du grand débat, on n'entendait pas la question de l'hôpital, on n'entendait pas la question de la santé, mais quand même dans les remontées de ce qu'on peut lire des cahiers de doléances ou même de ce qui s'est passé sur Internet, les plateformes, on voit bien que la santé fait partie des priorités aujourd'hui des Français. Et on voit bien que justement autour des questions de dépendance, notamment aussi de comment on vieillit mieux, quels soins. Mais je crois qu'effectivement l'hôpital public aujourd'hui, et ça dans le milieu hospitalier, les infirmières, les aides-soignantes le disent tous, ils ont l'impression d'être abandonnés, mais aussi parce que les relais que sont encore une fois les partenaires sociaux qui essaient de demander des discussions, des échanges, ils n'obtiennent pas les négociations qui sont celles qui leur sont demandées.
Et on le rappelle bien sûr, ce mouvement de grève des urgentistes parisiens est symbolique, l'accueil des patients se poursuit. C'est dimanche, vous avez donc carte blanche dans Les Informés, vous allez nous parler d'un fait d'actualité qu'on n'a pas évoqué dans cette émission, quelque chose qui vous tient à cœur. Céline Boisson va avoir une expo avec vous.
Oui, moi je voulais parler d'une exposition qui a lieu à la Gaîté Lyrique en ce moment, je crois jusqu'au 14 juillet si je me trompe pas, sur l'informatique et plus précisément sur les femmes qui ont compté dans l'évolution de la conception des ordinateurs, des logiciels. Et il y a plusieurs femmes qui sont mises à l'honneur pour faire parler de ces grands temps où les femmes ont existé. Je pense aux ENIAC Girls qui ont été les premières programmatrices, Grace Hopper, la reine du logiciel, ou, et j'ai oublié son prénom, donc je le lis, Eddie Lamar, qui est la pionnière du Wi-Fi, donc c'est bien de faire savoir tout cela et ça dure jusqu'au 14 juillet.
Et le nom de cette exposition ?
Computer Girls.
Pierre Jacquemin, un peu de musique avec vous.
Oui, c'est vrai qu'il y a mille et une raisons d'être très en colère et donc d'avoir plutôt un coup de gueule en ce moment parce qu'on n'aurait que des coups de gueule à porter, mais c'est vrai que ce week-end, dans cette grande période de coups de gueule et de colère, un peu de littérature, de poésie ou de cinéma fait toujours du bien, mais j'ai passé mon week-end à écouter un album qui est formidable d'une jeune artiste qui s'appelle Constance Verluca, qui avait fait un premier album dont je me souviens très bien, j'étais encore étudiant à l'époque, qui s'appelait Adieu Pony, c'est Constance Verluca, et qui signe un nouvel album en ce moment qui s'appelle Longtemps. C'est formidable, vraiment, je vous invite vraiment à l'écouter. Je l'ai fait écouter à tous mes amis, tous me disent, mais je l'ai en permanence dans ma tête, et je vous assure, l'album est vraiment bien, ça revisite un peu les années 60-70, sa voix est superbe, les paroles sont très belles, c'est de la poésie. Vraiment, je vous invite à découvrir cet album de Constance Verluca, Longtemps. Voilà, si vous connaissez Skeeter Davis, par exemple, ça fait un peu penser à cet univers-là. Et vraiment, c'est très chouette, voilà.
Je ne vais pas vous demander de nous le chantonner, mais un mot peut-être de la couverture de Regard, dernier numéro.
Oui, le numéro sort la semaine prochaine. C'est un numéro qu'on consacre à la question de l'effondrement, puisqu'on parle beaucoup d'effondrement climatique, de la question du climat qui pose beaucoup de questions. Et on s'est interrogé justement sur ce que la rhétorique de l'effondrement provoquait en termes de réaction individuelle ou au contraire de mobilisation générale.
David Boéré, une photo historique et une polémique.
Oui, parce que enfin, moi, il n'y a pas que la rigueur budgétaire dans la vie. Non, je voulais revenir sur la photo historique du trou noir qui a été diffusée cette semaine, parce que donc c'est une vraie photo historique. C'est la première fois qu'on voit à quoi ressemble effectivement un trou noir. C'est une confirmation de la relativité d'Einstein en plus. Et puis, dès le lendemain, il y a eu un peu une polémique avec cette scientifique américaine qui s'appelle Kathy Bowman, une chercheuse de 29 ans, qui, un peu à tort, a été présentée par de nombreux médias comme la personne qui a permis de prendre cette photo. Sans elle, la photo n'aurait pas pu être prise, ce qui est totalement faux. Et l'erreur vient d'un communiqué du célèbre MIT, vous savez, l'Institut technologique du Massachusetts, les Américains, qui ont mis en avant cette chercheuse avec cette photo où elle découvre en fait pour la première fois la photo et en indiquant qu'effectivement c'était grâce à elle. En fait, en réalité, c'est grâce au travail en commun de 200 chercheurs à travers le monde entier.
Aïe, aïe, aïe. Jean-Christophe Floquin, un mot de la semaine sainte.
Bah Pâques, mais pas les chocolats. Non, c'est parce que la religion, ça compte pour beaucoup de nos concitoyens, effectivement. Là, on rentre un peu dans la semaine qu'on appelle un peu la montée vers Pâques. Et donc, pour beaucoup de chrétiens, à la fois en France, mais aussi à travers le monde, c'est un peu la semaine où il va y avoir un peu remémoration, méditation un peu sur les derniers jours du Christ. Et donc, c'est un moment important. Dans les paroisses, il y a beaucoup de baptêmes d'adultes qui se déroulent. C'est des moments
moment important. Et donc voilà, je trouvais que c'était intéressant de rappeler ça. C'est vrai pour les catholiques, les protestants, les orthodoxes. Et puis pour nos amis de la communauté juive, il y a aussi Pessa, donc qui va intervenir au même moment. Et Ramadan pour les musulmans, c'est début mai.
Jean-Christophe, la Une de la Croix demain.
La Une de la Croix est consacrée aux fake news et on s'interroge sur est-ce que les élections européennes vont se passer sous la menace des fake news.
Et cette une, elle s'affiche si vous nous regardez sur les réseaux sociaux ou à la télé sur le canal 27 de la TNT. Il est l'heure. Voici la fin des informés sur France Info. Merci à nos quatre informés. Merci à vous, Céline Boisson.
Merci.
Vous êtes directrice associée de l'agence de communication Nude. Pierre Jacquemin, merci à vous, rédacteur en chef de la revue Regard. Merci David Boëry, journaliste à France Télé.
Et bonne soirée.
Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef à La Croix, notre partenaire du dimanche soir dans Les Informés, à l'édition visuelle ce soir, Joachim Dauphin, à la réalisation, Thomas Elias. Les Informés reviennent dès demain soir, 20h avec Jean-François Aquili, l'invité politique de France Info, demain 8h30 avec Marc Fauvel et Renaud Dely. Ce sera le patron de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan.